Les conversations de Réor.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette quatrième conversation de Réor. Aujourd'hui, nous allons accueillir avec nous François Semelet. Bonjour François.
Bonjour.
François, on est avec vous aujourd'hui parce qu'en fait le monde va vite, le monde va très vite et va de plus en plus vite même. Et pour les managers ou les dirigeants qui nous écoutent, dirigeants et dirigeantes qui nous écoutent, souvent on n'a pas le temps vraiment de prendre le recul suffisant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par rapport même à sa façon de manager, par rapport à ses pratiques, bonnes ou mauvaises. Et si je vous ai demandé, et merci d'avoir accepté d'être là pour ces conversations de Réor, c'est parce que je pense que vous avez le recul, ou un recul suffisant et nécessaire pour avoir un regard à la fois différent de ce qui se passe aujourd'hui sur justement ce métier, de ce que c'est que de diriger des équipes. François Semelet, est-ce que je peux me permettre de donner votre âge ?
Mais oui.
82 ans, vous avez.
82, oui.
Ouais. Vous avez fait des études scientifiques d'ingénieur agroalimentaire à l'ENSAIA de Nancy, avec une spécialisation biochimie et brasserie.
Oui.
Après votre service militaire, vous rentrez en 1966 chez Cronenbourg comme chef d'un atelier. Puis rapidement, vous êtes envoyé pour 6 mois dans une brasserie du groupe en Afrique, à Pointe-Noire. Au retour, vous participez au démarrage d'une nouvelle brasserie à Obernai, en Alsace. Quelques années plus tard, vous en prenez la direction pour 4 années, et puis vous prenez la direction de services d'appui, logistique, gestion, et en même temps chef de projet de la construction d'une 3e brasserie, construction qui sera stoppée au dernier moment. En 1981, vous prenez la direction industrielle de l'ensemble des brasseries du groupe BSN, qui est devenu Danone, après fusion de différentes sociétés autrefois concurrentes. Et puis, en 1988, vous rentrez chez Bell, après un long temps de réflexion, vous dites, où vous occupez d'abord des fonctions de directeur technique avec une forte participation aux réflexions de la direction générale, puis vous devenez directeur industriel de l'ensemble des fromageries métropoles et internationales jusqu'à votre départ en retraite fin 2002.
C'est parfait.
Alors la question que je vous pose, François, aujourd'hui, et si je vous ai fait venir, c'est parce qu'une fois vous m'aviez raconté une petite anecdote qui m'avait beaucoup amusé, que je trouvais vraiment très intéressante, où vous êtes vu dans un documentaire ou dans une vidéo, c'est ça ? Et vous pourriez nous raconter ça ?
Mais tout à fait. Je me suis revu l'autre jour en regardant de vieilles vidéos sur une émission pour une télévision en Alsace, où j'étais interviewé en tant que directeur industriel, et je devais parler d'un sujet qui était un petit peu nouveau à l'époque, qui était automatisme et productivité. Voilà. Et donc, je me suis revu, et avec le recul, je me suis dit, mais c'est pas possible, l'espèce d'allure conquérante et dominatrice que j'avais et qui ne correspond pas du tout à ma personnalité. Mais j'ai eu beaucoup de mal et puis je me suis dit, mais finalement, il fallait que je sois comme ça.
D'accord.
Ça ne pouvait pas être autrement. Mais avec le recul et la retraite, on ne se reconnaît pas. On ne se reconnaît pas, on se dit, c'est pas possible, j'ai été ça. Voilà.
Pourquoi il fallait être comme ça ?
Je vais commencer par le début. J'ai eu la chance, après le service militaire, un peu par hasard, étant au mess des officiers, de tomber sur une petite annonce où Cronenbourg recrutait un ingénieur, même débutant. C'est en 65. Les problèmes de recrutement ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Et donc, malgré mon manque d'expérience, comme je le dis souvent, je suis imbattable pour décrire le cycle de Krebs, bien connu des biochimistes, mais je n'avais aucune idée de la manière pratique de diriger un atelier et même de ce qui s'y faisait. Et j'ai été embauché malgré tout par Cronenbourg comme ingénieur débutant et j'ai eu la chance, bien qu'accueilli de manière assez diverse par les responsables de l'époque, parce que j'étais ingénieur et que dans un milieu où c'était le Braumeister, comme on disait en Alsace, qui était le grand chef, et bien de pouvoir vivre un certain nombre d'étapes qui ont été extrêmement constructives. Et je pense que si je ne les avais pas vécues concrètement sur le terrain, bon, je n'aurais pas pu évoluer comme j'ai évolué. Voilà.
Et cette dimension de conquérant, là, dont vous parliez, pourquoi ?
Mais de conquérant, j'ai été conquérant... que je le veuille ou non. Mmh. C'était vraiment c'était un chemin qui... Et j'ai beaucoup d'admiration pour les jeunes qui commencent aujourd'hui. Pour moi, c'était un chemin où, bien sûr, il y avait de la concurrence. Et je me souviens très bien de un certain nombre d'expériences sur le terrain où j'avais quand même des chausse-trappes sous les pieds. Il fallait que je passe bien. Mais cette concurrence... Pour la passer, il fallait quand même donner l'impression, voilà, d'être quelqu'un de conquérant, d'avoir envie de manger le monde entier, de boire la bière entière, voilà. C'était ça. Et c'est ce que j'ai revu sur cette vidéo. Je me suis dit, waouh, ben oui, c'était comme ça. Et puis je n'en regrette pas. Mais je ne me reconnaissais pas trop dans cette vidéo de la télévision, voilà.
Quelles qualités, finalement, vous avez développées ? Donc, vous ne vous reconnaissiez pas, ça veut dire que ce n'était pas complètement dans votre personnalité. Mais du coup, vous avez développé un certain nombre de qualités pour arriver à ce profil.
Est-ce que j'ai développé des qualités préexistantes ou est-ce que j'ai eu la chance de m'adapter ? Je dirais un petit peu les deux. Parce que... Une expérience pour moi très formatrice, ça a été, je crois que je vous en avais parlé, les 6 mois que j'ai passés en Afrique. J'ai passé 6 mois en Afrique et j'étais déjà pétri d'écoles de management avant, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et je me suis retrouvé à Pointe-Noire, à diriger d'abord un atelier, puis ensuite l'usine, sans aucune expérience, encore une fois pratique. Et avec des fois des problèmes de management où j'ai dû utiliser des aspects, des comportements qu'on n'apprend pas à l'INSEAD. Je donne un exemple. J'avais un contremaître extrêmement intelligent, mais qui était complètement inféodé au chef de fabrication qui venait de partir.
Oui.
Et les premiers jours où je lui donnais des instructions, il me disait clairement, c'est pas vous le chef.
D'accord. Voilà.
Donc c'était un petit peu ennuyeux. Et alors un jour, sur les conseils d'un vieux colonial, je dirais, j'y étais à l'esbrouf. Et encore une fois, c'était pas mon truc. Et je lui ai dit, Maxime, je vois dans tes yeux que tu ne m'aimes pas. Il me dit, ah, chef, pourquoi tu dis ça ? Je dis, je le vois bien. Je vois bien au fond de ta tête. De ce jour-là, ce type est devenu extraordinaire et c'était un excellent contremaître. Je me suis dit quand même qu'il y avait des méthodes qu'on n'enseigne pas dans les écoles et qui... Et bien ça m'a fait réfléchir pour la suite,
pour
sur
la suite.
Le côté pragmatique, sur le côté voilà, s'adapter.
À la fois pragmatique et à la fois de l'ordre de la relation humaine, en fait.
Et de la relation humaine. Parce qu'après... on a eu avec ce garçon une excellente relation. Il aurait bien voulu que je le ramène en France. Et je l'aurais bien fait si j'avais pu. C'est un type fabuleux. Mais voilà, ça a été le... Je te regarde dans les yeux et je vois que tu ne m'aimes pas. Oh, patron.
Quelque chose d'assez franc et de transparent.
Oui, transparent, voilà, ouais. Tout à fait.
D'accord.
Et donc, je pense que j'ai eu, encore une fois, la possibilité de franchir un certain nombre d'étapes qui sont aussi, il faut le dire, des choses trappes, sans grand problème, mais que le côté, pour moi, qui me semble fondamental, c'est finalement connaissance du terrain.
Oui.
Alors, ça paraît banal de dire ça.
C'est-à-dire la compétence métier, c'est ça ?
La compétence métier. L'acquérir très, très vite, pouvoir parler avec ces différents ateliers de choses que vous connaissez.
Voilà, ça c'est... Alors c'est vrai que ça, maintenant, on parle en effet de cette légitimité-là pour le manager. On parle aussi d'autres formes de légitimité, comme la connaissance du réseau, par exemple, ou le courage managérial. Est-ce que tout cela, vous l'aviez utilisé? Connaissance du réseau, par exemple.
Oui, bien entendu, et courage managérial, là aussi, on peut toujours réécrire l'histoire après, hein, sans
Oui.
un temps de recul. Mais je pense que c'est comme à la guerre, hein. Il y a des situations où vous ne pouvez pas faire autrement que.
Oui.
Voilà, c'est clair et net, il n'y a pas je peux aller à gauche, je peux aller à droite. Non, le chemin vous semble évident. Je donne un exemple.
Oui.
Une usine, c'était chez Kronenbourg, une usine était en grève, une grève dure. Et j'ai un de mes collègues qui, pour rentrer dans l'usine, a pris des chemins détournés. Moi, peut-être par paresse ou par innocence, je suis passé, en tant que directeur d'usine, je suis passé à travers une haie de grévistes qui m'ont hué,
Oui.
hein, forcément, parce que j'étais le patron. Mais je me suis rendu compte qu'après, l'estime qu'ils portaient à leur directeur qui avait osé, mais tout naturellement, hein,
Ouais.
j'avais gagné des galons,
D'accord.
tout simplement. Et encore une fois, oui, j'ai envie de vous dire, c'est des choses qui ne sont pas préméditées, c'est des choses qui vous viennent naturellement. Alors, de par mon tempérament, de par. Mais en même temps, ça me paraît indispensable d'avoir une espèce de rapport. Je crois que j'ai quand même toujours respecté les hommes. Voilà, ça paraît un peu innocent de dire ça, mais je crois, fondamentalement.
Là encore, on voit un rapport frontal en fait et de transparence, hein, un peu comme
Oui.
l'exemple que vous avez donné tout à l'heure.
Oui,
C'est-à-dire,
tout à fait. Oui.
j'arrive, je suis là,
Je
je
suis
passe
là.
devant vous, je vous
Oui.
vois aussi dans votre
Voilà.
confrontation
Oui.
et je vois que vous ne m'aimez pas de la
Voilà.
même
Ben
façon.
oui. Et
Ouais.
je préfère vous. Voilà, passer à travers vous, ben oui, vous ne m'aimez pas, ben c'est normal, et puis je ne vais pas baisser la tête pour autant.
Ouais, cette transparence-là, ce rapport.
C'était donc pas de la stratégie, c'était plutôt de la tactique.
Ouais.
Voilà.
Comment vous faites la différence entre les deux là?
Alors là, c'est l'ancien officier de réserve qui parle. Ben, le stratège, c'est la manière d'amener les armées sur le terrain pour qu'ensuite, au niveau tactique, la bataille se déroule bien. La tactique, c'est la bataille. La stratégie, c'est avant la bataille.
Donc là, c'était tactique.
C'était de la tactique, mais une tactique qui était, j'allais dire, réactive. C'était pas une tactique où derrière, je me dis, il vaudrait mieux que non. J'ai pas hésité. Je me suis dit, je vais pas devant cette haie de type que je connaissais. Hein. Je ne vais pas me retourner, repartir chez moi, ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est un problème de tempérament, c'est un problème de, peut-être, j'allais peut-être dire, d'immaturité aussi. Un stratège aurait dit, c'est pas comme ça que je dois. Non. Voilà.
Dans votre expérience, sans doute vous avez connu des situations où il fallait motiver des équipes. Comment faisiez-vous?
Est-ce que je peux vous dire que pour moi, cette question n'a pas de sens?
Pourquoi?
Excusez-moi.
Mais pourquoi?
Un manager qui se dit comment je dois motiver mes équipes, comment vous dire? C'est une espèce de pensée, de réflexe que vous avez en permanence. Ce n'est pas aujourd'hui, il faut que je pense à motiver mes équipes. C'est dans toutes les circonstances, démarrage d'un atelier, problème qualité à régler sur un atelier parce que, etc. Vous êtes toujours, n'importe quel manager, est toujours avec cette composante, j'explique, j'analyse, j'explique, je donne un objectif, et ce faisant, je motive. Hein, il n'y a pas de séparation pour moi, si vous voulez. Donc,
Explication, objectif.
objectif, explication, respect de l'autre, écoute de l'autre. il n'y a pas, en plus, je remets une couche de motivation.
Ouais. Non,
enfin, pas pour moi.
Dans des périodes de changement, de restructuration, de réorganisation, comment ça se passait pour vous?
Des fois, pas très bien.
Oui, pourquoi?
Des fois, pas très bien. Parce que, justement, en tant que, en particulier en tant que, quand j'ai commencé à grimper la, la hiérarchie, quand des instructions venaient du haut, hein, au niveau de restructuration, par exemple, de modification, et que ces instructions étaient très, très brutales, là, je reconnais que j'avais beaucoup de mal. Beaucoup de mal à appliquer, justement, à traduire des objectifs de direction générale en objectifs, je dirais, admissibles par rapport au personnel que j'avais animé. Là, c'était... Oui, j'ai eu des moments très difficiles.
Comment ça s'est concrétisé?
Comment ça s'est concrétisé? Pour vous donner un exemple, à un moment donné, j'ai failli laisser ma peau.
Ah oui?
Enfin, je parle sur le plan carrière.
Oui, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que la direction générale considérait que je n'appliquais pas sérieusement les consignes. Là, je suis obligé de mettre un petit peu de patte humaine autour. Cronenbourg, société alsacienne, avec toute la fierté alsacienne, avec ce côté assez extraordinaire de l'alsacien de base, qui est capable de travailler de manière tout à fait engagée, qui est capable de faire la fête. Mais quand il se met en grève, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Et on va dire, le management supérieur, la direction générale à l'époque, qui est arrivée chez Cronenbourg, je ne refais pas l'histoire, qui était extérieure à Cronenbourg, a donné justement une impression par les directives qu'elle donnait et par l'appréciation qu'elle faisait de Cronenbourg d'être dans le mépris.
D'accord.
Et là, ça a été extrêmement dur pour le personnel qui était très fier, très très fier de ce qu'il faisait, et se sentir non reconnu par le top management, c'était difficile. Voilà. Donc là, on se dit, faut peut-être accepter de partir. Voilà.
C'est ce que vous avez fait?
Oui.
D'accord.
Oui.
Parce que vous étiez pieds et poings liés.
J'avais pas envie, mais c'est classique dans une carrière. J'avais pas envie d'appliquer un petit peu des choses qui allaient pratiquement à 180 degrés de ce que j'avais prôné avant.
D'accord. Voilà. C'était contre vos valeurs?
Contre mes valeurs, parce que je considérais que oui, que c'était contre mes valeurs, absolument, et puis que c'était, ça aurait été vraiment indiqué à tout le personnel des objectifs et des appréciations qui étaient à 180 degrés ce que j'avais dit avant. C'était pas tolérable.
Ouais.
Voilà.
Merci pour cet exemple. Une autre question, dans votre carrière, évidemment, j'imagine que vous avez mûri tout au long de votre carrière, dans votre façon
pas,
de direction.
Peut-être.
Et ben justement, on va s'interroger là-dessus. Qu'est-ce qu'il vous semble qui a bougé, qu'est-ce qui s'est modifié?
Ben déjà, ce qui s'est modifié, c'est que passant d'une société très industrielle à une autre société très industrielle, mais beaucoup plus dans le cadre de l'international, les mentalités étaient complètement différentes. Je donne un exemple. Dans mon second métier, j'ai découvert qu'une usine pouvait se mettre en grève parce que, pour ne pas le nommer, la CGT avait décrété que cette usine devait se mettre en grève et qu'il n'y avait aucune raison objective. Ça ne se serait jamais passé en Alsace. Voilà. Et là, j'ai découvert un autre monde. Hein, un autre monde où il fallait diriger différemment, tenir compte justement de ces réalités un peu plus, on va dire, politiques.
Oui.
Bon, donc là, ça m'a fait un petit peu évoluer, ça m'a fait prendre du recul.
Et qu'est-ce qui a changé, du coup, dans votre comportement managérial?
Déjà, si vous voulez, cette seconde carrière, j'étais tout de suite loin du terrain.
D'accord.
Hein, puisque je n'ai pas eu à diriger directement d'usine, mais j'avais à diriger un tissu industriel, ce qui n'est pas pareil.
Oui.
Donc, mon expérience était fortement différente, encore une fois, avec un mode de réaction. Je bénéficiais d'une direction générale extrêmement humaine.
Oui.
Dans le deuxième cas. Ce qui était aussi le cas de la première, mais la première était plus lointaine, quoi. Voilà. Mais autrement,
quand vous dites direction générale plus humaine, qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Vous ne serez pas obligé de passer ça, mais je donne un exemple quand même. Quand je prends la direction technique, très rapidement, je me rends compte que dans mes équipes, j'ai vraiment quelqu'un qui fait vraiment pas le poids. Vraiment, qui est un... Bon, qui fait pas le poids, voilà, j'en dirai pas plus. Et je vais voir mon directeur général, avec lequel je m'entends très bien, je lui dis, écoutez, monsieur, il faudrait quand même qu'on essaie de reclasser ce monsieur, parce que... Et je me souviens toujours, il m'a dit, monsieur, vous n'êtes plus dans l'entreprise précédente, considéré comme une entreprise à forte volonté de productivité,
oui.
Avec tout ce que ça voulait dire derrière. Donc, il va falloir vous en occuper, il faut faire avec. C'était vraiment une approche radicalement différente. C'était, ben oui, c'est vrai, il faut faire avec. Et ça, c'est une dimension que j'ai découverte. Voilà, tu as une équipe, eh bien, il faut essayer de, je dirais, comme un lieutenant avec sa section, il faut essayer de marcher avec tout le monde, voilà.
Et du coup, comment ça s'est passé avec cette personne? Comment vous avez, vous, évolué?
Je l'ai intégré, et puis voilà. Et puis c'était pas une force très active, mais au moins, je l'ai gardé, voilà. Hein, et dans une équipe, ben, tout le monde n'est pas au top, voilà.
Est-ce que l'équipe, par exemple... a senti cet effort et du coup s'en est trouvé modifié ou
bon,
pas
je crois pas. Non, non. C'était à la marge, ça. C'était à la marge. C'était dans mon rapport avec mon directeur général, qui était un type extraordinaire. Et puis voilà, on s'entendait bien là-dessus, mais j'ai pris ça comme une leçon. Ben oui, c'est vrai que ça n'est pas parce qu'un individu, à un moment donné, n'est pas au niveau qu'il faut s'en... Voilà, on fait avec. Et ça, c'est toujours... J'ai toujours gardé ça comme une espèce d'image assez extraordinaire. Voilà.
Si, là sans doute dans ce podcast, des managers, j'allais dire, de toute génération peuvent nous écouter, mais peut-être certains jeunes managers qui démarrent l'accompagnement, qui démarrent leur rôle d'accompagnateur d'une équipe, justement, et de développer, d'animer ces équipes. Quel conseil vous pourriez leur donner avec le recul aujourd'hui?
Oh là là, je ne me permettrai pas. Non, ce qu'il me semble, je vais sortir une banalité épouvantable, mais au départ, avoir une connaissance aussi approfondie du métier qu'on est censé animer, diriger, orienter. Voilà. Sinon, surtout quand vous êtes à un niveau de management, je dirais, proche du terrain, l'amateurisme ne pardonne pas. Et moi, je sais que j'ai eu la chance, mais je dis bien la chance. Comme je disais au début, sortant de l'école, je connaissais complètement les... c'était le début de l'ADN, je savais ce que c'était qu'un ADN. Ça venait à peine d'être découvert. Je savais ce que c'était que le cycle de Krebs. Et comme chacun sait, c'est le cycle de dégradation du glucose. Mais je n'avais aucune idée de comment on faisait vraiment de la bière. Bon. Bien, heureusement, je me suis trouvé confronté, j'ai étudié, hein, après, et je me suis trouvé confronté volontairement à un certain nombre de pièges de mes collaborateurs proches.
Oui.
Ce petit ingénieur qui arrive, attends, on va le piéger. J'ai eu la chance de ne pas tomber dans les pièges, il valait mieux, et d'apprendre beaucoup. Mais je crois qu'après, ça m'a donné une légitimité, aussi bien de moi comme patron par rapport à mes troupes, mais à l'inverse aussi, ça a permis un dialogue beaucoup plus riche parce que je connaissais le métier. Voilà. Alors, excusez-moi de sortir une évidence,
Non, non,
mais voilà.
c'est important. Après, quand on n'est pas justement manager de proximité, mais plus manager stratégique, et qu'on est un petit peu loin des compétences métiers, on est plutôt dans la relation humaine.
Ah oui.
Et là, qu'est-ce que vous pourriez dire?
Oh là là! Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'au fur et à mesure, et c'est une nécessité, c'est une évidence, que vous montez dans la hiérarchie, que vous avez à vous occuper nécessairement de notions plus lointaines, que vous maîtrisez moins bien, que quand vous êtes dans un atelier, vous avez à diriger vraiment l'atelier, et que là, l'aspect interpersonnel joue beaucoup plus, et que c'est des fois très difficile. Voilà. Là, les rivalités interpersonnelles jouent, clairement. Donc à ce moment-là, bon, ben, c'est. Encore une fois, c'est. J'ai toujours eu, moi, le plaisir de découvrir, d'écouter l'autre. Hein. Donc
Oui.
ça, c'était un avantage, mais qui m'était naturel, hein, je ne l'ai pas appris. Voilà.
Découvrir et écouter l'autre.
Oui, découvrir l'autre, voilà, comprendre, essayer de comprendre. Mais pour moi, c'était un amusement. C'était pas l'obligation, je dois l'écouter.
Oui.
C'était bon, attends, il a quelque chose à me dire. Mais des fois, ça pouvait se passer plus ou moins bien.
Comment vous faisiez quand ça se passait pas très bien?
Quand ça se passait pas très bien. Bon, alors là, j'avais une capacité, peut-être s'il n'y avait pas urgence, à prendre un peu de recul.
Oui.
Voilà, et à me dire, bon, ben, cette décision, peut-être qu'elle peut attendre.
Oui.
Hein, je vais peut-être le. Voilà.
Différer.
Différer. Différer simplement. S'il n'y avait pas urgence.
Dans les outils de communication, puisqu'on est dans les relations interpersonnelles, dans la communication, etc., c'était quoi vos outils préférés, j'allais dire, de communication? Comment vous alliez voir les gens? Est-ce que...
J'avais inauguré en 74, oui, en 74, quand j'étais directeur d'usine, déjà, une usine assez conséquente. J'avais, dans ma naïveté, en admiration devant ce qui se passait en Chine, j'avais inauguré des espèces de tabloïdes qui étaient dispersés dans les ateliers où on pouvait écrire ce qu'on voulait.
Ouais.
Voilà, des questions. Et ça a bien marché. Ça a bien marché. Puis après, ça a été bien sûr critiqué par les syndicats comme étant une manière de récupérer. Mais c'était une... Ça a été pendant un moment une bonne manière, qui était en plus révolutionnaire, on en parlait beaucoup à l'époque, les Dazhi Bao. Hein. Ça a été une manière pour moi d'animer un petit peu la communication dans une usine, qui avait comme chance aussi, il faut le dire, de ne pas avoir de problème d'avenir, puisque c'était une usine qui démarrait, qui était l'usine avenir du groupe, où les salaires étaient très beaux. Donc quand même, le climat social, naturellement, que je sois là ou pas, était un bon climat social, en plus de l'aspect alsacien.
Voilà. Donc des tabloïdes.
Oui, donc j'avais mis des paperboards, voilà, où j'avais des questions, et j'y répondais. Voilà. J'ai fait ça pendant 6 mois, puis je me suis fatigué, mais ça a bien marché. Je trouvais ça bien, quoi, voilà.
Quoi d'autre, encore quoi...
Autrement... Autrement, ben, des réunions de l'atelier, ça paraît idiot, mais je participais systématiquement avec mon épouse à toutes les fêtes d'atelier.
D'accord.
C'était à la fois un plaisir, puis c'était... Voilà, donc, en particulier en Alsace, on fête beaucoup Noël, donc il y avait les soirées de Noël dont mon épouse garde des souvenirs, des fois un peu alcoolisés. Voilà. Mais c'était naturel, quoi. Comment vous dire? J'allais dire naïvement qu'il n'y avait aucun calcul de ma part. C'était pas « il faudrait, je dois, n'oublie pas le principe numéro 7 », non, pas du tout. Il y a eu une espèce, à un moment donné, je crois que c'est très important, une espèce de joie, de bonheur, de voir que ça passe, de donner des instructions, de vérifier que c'est... Et que les gens, globalement, sont à peu près heureux. Tout. Voilà, c'est... J'ai suivi beaucoup de cours de management, hein, énormément. J'ai été à l'INSEAD et tout ça. Donc, ça m'a donné des structures là-dessus. Mais bon, c'était vraiment ce plaisir de voir que ça fonctionne, qu'il n'y a pas d'hostilité marquée par rapport à vous. Je ne sais pas comment j'aurais pu survivre, entre guillemets, si j'avais senti une hostilité marquée, comme ça peut être le cas dans beaucoup de cas entre un personnel et son patron.
Ouais.
J'ai eu la chance de pas connaître ça.
Et quand il y avait des approches, on va dire, plus frontales, vous étiez aussi frontal, des exemples.
Ah oui.
C'est-à-dire transparent, quoi.
Ah oui, hein, oui, ouais. Non, mais alors j'ai l'habitude de parler cash, ça c'est sûr. Ça c'est aussi une... Là, oui, mais parce que je ne saurais pas faire autrement.
Ouais.
Encore une fois, j'insiste, ça n'était pas des calculs de ma part.
Oui,
ça
oui.
n'était pas des postures où je me disais, attends, j'ai appris dans mon dernier stage le truc, il faut non. Ou bien c'était peut-être intégré, mais ça fonctionnait tout seul.
Avec le recul, toujours quand vous regardez un peu votre parcours, est-ce que vous avez un regret d'une situation, d'un moment où vous n'avez pas réagi comme vous l'auriez voulu?
Oui, j'ai peut-être un regret, c'est d'avoir voulu durer malgré plein de choses dans cette société que j'aimais beaucoup de Cronenbourg. J'aurais peut-être dû la quitter avant. Parce que j'ai quand même été obligé, dans les derniers temps, d'appliquer des choses, des instructions de la direction venant de BSN,
oui.
qui étaient pour moi... qui ne pouvaient pas fonctionner. Voilà.
Et pourquoi vous le regrettez? Pour vous-même, pour vos équipes?
Non, pour moi, parce que tout simplement, le principe de plaisir, c'était une époque pour moi de moins grand plaisir à bosser, tout simplement.
Ouais, ouais.
Voilà. J'ai jamais eu la peur au ventre ou l'angoisse au ventre en allant au travail, hein, Dieu merci. Mais à un moment donné, vous êtes naturellement épanoui quand vous vous sentez en concordance, en cohérence avec ce que pense votre personnel, vos collaborateurs, et puis les instructions qui viennent du haut.
Oui.
Et quand ça commence à diverger, c'est...
C'est pas bon.
C'est pas bon, ça, ouais. C'est bon pour les ulcères à l'estomac, mais c'est tout.
Donc ça, c'est... Moi, je le retiens comme conseil pour ceux qui occupent des positions assez stratégiques, c'est-à-dire que quand on sent que nos valeurs ne sont pas alignées avec les valeurs de l'entreprise, il faut partir.
Il faut partir.
Ouais.
Si vous voyez que vous ne pouvez pas changer, et moi, je comprenais que je représentais en fait un vieux mode de fonctionnement, enfin, vieux, entre guillemets, de fonctionnement à l'alsacienne, et que ça collait plus avec les objectifs de la direction générale.
Ouais.
Et que, bon, donc quand une occasion s'est présentée, j'ai hésité quand même beaucoup.
Ouais.
C'est ce que je disais sur moi, ce que je racontais, parce que quitter une entreprise où vous avez travaillé pendant 21 ans, vous avez été heureux, vous connaissez beaucoup de monde, vous êtes bien, et se dire je plonge dans l'inconnu à 46, 47 ans, c'est pas évident.
Ouais. Voilà.
J'aurais peut-être dû le faire plus tôt.
Mais quand même le faire plus tôt, justement, parce que de sentir cet non-alignement avec les valeurs. Et du coup, par rapport à ces valeurs, c'est quoi vous, vos valeurs en tant que dirigeant?
Vous couperez au montage, moi c'est des valeurs complètement épicuriennes. C'est le plaisir d'aller au boulot.
Ouais.
Et le plaisir de se sentir bien avec ses équipes, de voir que ça fonctionne, que voilà, c'est tout simplement ça.
Si vous êtes d'accord, je ne couperai pas.
J'ai pas d'autre valeur.
C'est très important, merci.
Bah, c'est important, oui, il me semble.
Merci, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
ce que je voulais rajouter, c'est quand même, j'ai eu... je fais partie, je pense, de cette génération qui a eu beaucoup de chance. Je ne vais pas m'excuser, hein. Mais j'ai eu beaucoup de chance de rentrer à une époque où il y avait de l'emploi pour les jeunes cadres, qu'on pouvait progresser assez rapidement, sauf à faire des conneries majeures. Et j'ai bénéficié à la fois de cet environnement porteur. Je suis rentré dans cette maison qui était fabuleuse, Cronenbourg, extraordinaire, pour rentrer après dans une autre qui était aussi fabuleuse, j'ai pas peur de le dire, belle. Donc... voilà, je dirais qu'il faut aussi avoir de la chance, comme aurait dit Talleyrand.
Ouais. Merci François, François Sommelet.
Ben, merci à vous.
Et puis merci à vous toutes et tous pour votre écoute et bientôt pour le prochain podcast. À très vite et à très bientôt. Au revoir.